la famille, c'est pareil. Après 20 ans, d'aller, oublie tout ça. Mais comme si on pouvait oublier.
C'est-à-dire qu'on te dit. Exactement. Pascal, on te dit tout ce que tu n'as pas envie d'entendre.
Voilà.
Parce que tout ça, tu le sais, c'est pas la peine. Pourquoi t'es pas partie toi seule connais ton histoire et c'est horrible de dire aux gens pourquoi vous n'êtes pas partie.
Je vais vous l'expliquer parce qu'il faut bien qu'on prenne le truc. Et ça, c'est médical.
Oui.
C'est médical, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont le comprendre parce que j'en ai assez d'entendre ça.
Très
et
bien.
De penser qu'on a mes coups, etc. Ou qu'on est trop faible, voire pas repartir. Moi, j'étais quelqu'un de très fort, j'ai du caractère, j'étais lumineuse. Mmh. Bref. Donc, c'est médical. Quand on subit des chocs, tels que la violence, des coups, c'est comme des chocs, en fait, comme un accident de voiture.
Oui, c'est émotionnel, ça touche l'émotion. Tout ce qui touche l'émotion, ça dépasse.
Le cerveau, il bug.
C'est ça.
Il bug.
Ouais.
Ça s'appelle l'état de sidération.
Sidération, oui, c'est ça.
Voilà, tous les médecins expliqueront ça.
Mmh.
Et quand on est dans cet état, on ne peut plus rien faire. Moi, je sais que j'ai appelé ma copine en pleurs. Il disait, je ne peux pas partir. J'ai l'impression d'avoir les jambes coupées, la tête coupée. Je ne peux pas agir. On ne peut pas agir, en fait.
C'est ça.
C'est médical.
Oui,
c'est comme ça.
Oui.
Donc, quand même de crier haut et fort, ça, bien l'expliquer une bonne fois pour toutes.
Dans ces cas-là, tu avais besoin d'être aidé, d'être écouté, tout simplement écouté. Voilà.
Écouté.
Voilà. Mais les gens ne savent pas écouter. Ils donnent ils donnent juste des leçons. Ce n'est même pas des conseils, c'est des leçons. Tu aurais pu partir.
70% des gens, ils ne t'écoutent pas.
Non.
C'est à ça que tu juges les bonnes personnes et les mauvaises, en fait.
Oui, il y a de moins en moins d'oreilles, Pascal. Il n'y a pas d'oreilles. Donc c'est pour ça que.
Alors, pire.
Oui.
On entend un mot ou deux et on te refait l'histoire.
C'est
toi qui passes pour le mauvais.
Ah, mais c'est souvent ça.
À la télé. Regarde Hanouna, il invite des invités, des bonnes personnes, certaines fois, des personnes intelligentes. Ils en ressortent comme un crétin, dénigré de leur discours parce qu'on déforme leur discours et on se jette sur eux comme des monstres. Là, ils sont mal élevés, on dénigre, comme tu disais tout à l'heure, voilà l'exemple qu'on donne aux enfants.
Si on veut
que le monde aille mieux, on n'a qu'à remettre des programmes éducatifs à la télé dès le premier âge
et
coller les enfants devant les écrans. De toute manière, ils sont collés devant les écrans.
Mais moi, je regrette l'époque, ma chérie, Dorothée.
Où
les enfants regardaient Dorothée. C'était naïf. C'était innocent, mais ils regardaient des choses de leur âge, c'était adapté, et en même temps, il y avait du rêve.
Contrôlé.
Moi, je me souviens quand j'étais gamine.
Goya,
par exemple, Chantal Goya. Quand on était petit, ma génération, par exemple, à l'école, les livres de l'époque. Le Petit Poucet. Mon Dieu, comme j'ai rêvé avec Le Petit Poucet.
Voilà.
C'était des leçons de vie. D'abord, c'est des messages, c'est des leçons de vie et qui nous apportent énormément d'ouverture et de fenêtres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre on leur met des tablettes, des téléphones. Moi, j'ai un auditeur qui me dit cette semaine dans les petites annonces. Alors je lui ai dit non, c'est pas possible. Il a sa fille qui est au pays, elle a 18 mois et il veut envoyer elle me dit j'envoie un téléphone sachant qu'il a une fille parce qu'il avait déjà envoyé des documents, des choses comme ça. Et donc il avait fait appel et là ce jour-là il me dit je voudrais envoyer un téléphone. J'ai un téléphone pour moi c'était un jouet quoi. Il me dit non, un vrai téléphone. Ah bon? À ma fille, je croyais que c'était sa femme. Non, il avait déjà envoyé à sa femme. Il me dit à ma fille, là j'étais déboussolée parce que sachant que sa fille, elle avait un an et demi, il n'y avait pas si longtemps, il avait envoyé un truc, des jouets, un sirop, enfin des vêtements. Ah, je lui dis, mais quoi? Comment ça? Elle a quel âge? Attends, remémore-moi parce que là je.
Ah, moi aussi, j'adore faire ça.
Elle lui dit, normal, hein, naturel, 18 mois. Peut-être qu'il est à l'écoute, mais ça va lui servir. 18 mois. Mais 18 mois, 18 mois. C'est-à-dire que c'est de plus en plus jeune.
C'est ça.
Les gens, les parents ne. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, les parents. Déjà, les enfants sont complètement déboussolés. Les enfants sont. Je veux dire, tant que vous pouvez les préserver un maximum sans ces satanés écrans, mais faites-le.
Alors, écoute-moi bien.
Vas-y.
Moi, je pense que. Attends, qu'est-ce que je voulais dire?
On parlait des...
des choses.
Oui,
on... Déjà,
oui.
C'est vrai qu'on n'a plus de rythme puisqu'on se lève la tête dans les écrans, on se couche la tête dans les écrans. Avant, on se réveillait avec le soleil, on ouvrait les fenêtres. Moi, ma mère, elle me disait, tu te réveilles, tu fais un peu ta chambre. Déjà, ça, ça nous mettait dans un rythme. Les repas, ouais. Les repas, maintenant, il n'y en a plus. Ah. Dans le, la tête dans le portable, à n'importe quelle heure.
Ah, bah,
donc, il
n'y
a
fini,
plus
ça.
Tous ces repères déjà de base. Tu vois,
c'est fini le dimanche, quand tu, les dimanches quand on allait chez les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, etc.
Qu'on
se retrouve, voilà, on se retrouve avec toutes les cousins, c'était la fratrie, les cousines. Donc il y a toute la famille, les grands-parents, etc. Maintenant tu dis à tes enfants, quel parent peut dire à ses enfants aujourd'hui, ados, adolescents, ben écoute, dimanche on ira chez papy et mamie. Et Ima. Alors là c'est pas possible, ça passe pas.
On va ramasser des cagoules sous la pluie.
Ah ouais. Ah ben non, mais ça va pas, non, mais moi je reste dans ma chambre, moi, j'ai du travail. Voilà. Il reste avec ses écrans.
C'est vrai qu'on participait, on cherchait, les parents, ils cherchaient à occuper les enfants, à les sortir, à les promener. Moi, ma mère, tous les jours, elle veillait à ça. J'ai veillé à ça avec mes enfants quand ils étaient jeunes, à leur faire tout un tas d'activités,
un peu
dans la journée. Des périodes où dynamique, des périodes un peu plus calmes.
Ben oui, mais c'est fini. C'est fini. Il y a des parents qui me disent... Mais sincèrement, hein, qui me disent que quand enfin, ils habitent dans la même maison avec les enfants, et ben l'heure de, par exemple, pour manger, pour bon, ils viennent pas dîner, ils dînent plus à table, hein, mais la maman, elle débarrasse, elle va faire, voilà, elle fait sa cuisine, elle nettoie et tout ça avant de dormir. Et puis l'enfant qui vient pas chercher à manger, tout ça, elle s'inquiète, elle sait plus quoi faire, ils sont déboussolés, il y a plus d'organisation, tout est désorganisé. Elle envoie des messages. Alors elle envoie des messages à son enfant en lui disant, alors que tu veux, je te ramène à manger, tu viens chercher, comment on fait? Elle n'ose même pas aller toquer à sa porte pour ne pas se faire hurler dessus. Lâche-moi, parce que lâche-moi, c'est devenu la phrase.
Les enfants, ils ont largement pris le dessus.
Ah oui.
Parce que tu sais, c'est venu, moi, j'étais jeune, à 12-13 ans. J'ai commencé à voir les séries américaines à venir à la télé. Moi, j'ai une super éducation avec mes parents. Comment dire, c'était les enfants parlaient dans leur coin, les adultes parlaient dans leur coin, mes parents ils s'écartaient de nous
ben
pour
oui.
parler de sujets.
Ah, c'était à l'époque, c'était
jamais
comme ça. Oui.
On était mêlés, ils faisaient attention à tout ça, à bien parler devant nous. Bon, et quand les séries américaines des années 80 sont arrivées là, où les enfants étaient rois, ils ont commencé à mal parler, à critiquer les parents, tu sais, c'était odieux, moi je me souviens, j'étais là, si les enfants voient ça, mais t'imagines les dégâts et tout.
Ah ben oui, c'est ça.
Au fur et à mesure, ils vont, eh ben...
Mais c'est ça, plus les réseaux sociaux...
Plus ça.
Les réseaux sociaux, ils se montent à tête les uns les autres, et ils ont tous le même langage. L'autre fois, j'ai des idées des fois qui me viennent dans la tête. Tu vas rigoler. Hein. Alors l'autre fois, ils ont tous le même look, hein, tous le même look. Alors ils ont des pantalons hyper serrés, je sais pas. Enfin, je suis pas en train de critiquer, mais enfin bon, ils ont tous un look aujourd'hui aligné. Alors c'est pas chacun à son son style, sa personnalité, ça dénote.
Honte de dénoter.
Voilà. Donc
ma fille, elle est tout le temps en train de me dire arrête.
Ah oui c'est ça. Ils ont tous le même look. Il y a un auditeur qui m'appelle dans les petites annonces. Il a un salon de coiffure. Voilà. Il a un salon de coiffure. Il cherchait un coiffeur. Il me dit coiffeur avec je cherche un employé, un coiffeur CDI, tout ça et tout ça, mais expérimenté et qui coupe bien les cheveux, tout ça. Enfin vraiment avec de l'expérience. Et moi je lui dis, après je peux pas m'empêcher. Il était mort de rire. Il me dit j'adore ce que tu me dis. Je lui dis à quoi ça sert? Il me dit il me dit comment ça? Je lui dis mais tu les as vus dans la rue? Ils ont tous les cheveux comme des coques, debout, machin, dans tous les sens. Non mais c'est vrai, ils se coiffent pas. Comme ils se réveillent, ils sortent, j'ai l'impression. Ils ont les cheveux, ils ont des coupes de cheveux debout. Voilà. Tout le monde a les cheveux debout. On va à la télé partout.
J'ai dit à mon fils la dernière fois, lui pareil. Le coiffeur le meilleur de Marseille.
Ah bah dis donc. Tout ça pour ça.
Pour faire quoi? Pour te laisser 2 mm sur le crâne.
Ouais, combien t'as payé pour ça? Et c'est ce que je dis.
C'est pas un coiffeur pareil, quoi.
Eh bah oui.
Te couper pareil à 2 mm.
Toi, tu peux lui faire. Ben, c'est ce que j'ai dit au coiffeur. Je lui dis quoi? Je lui dis, t'as même pas besoin de prendre un coiffeur. Tu prends n'importe qui. Un charcutier, un boucher. Je sais pas, t'as envie de lui dire, tu prends n'importe qui n'a rien à voir avec la coiffure. T'inquiète pas, il fera pas pire. Pourquoi expérimenter en quoi? Non, mais on vit une époque, hein. C'est une époque où c'est comme ça.
C'est dingue.
Ah, mais complètement. On va prendre Nadia avec nous.
Attends, parce que je voulais juste dire un truc.
Dis-moi, ma chérie, dis-moi.
Tu sais, il y a quelques temps, il y a 4 ans, il y a eu mon... Donc, après ma violence conjugale.
Ah oui.
Mon ex est parti, m'a abandonné, en fait.
Ah ben, tant mieux. Oula.
Oui, tant mieux.
Ah oui.
Mais je tiens quand même un peu fatiguée, parce que, mine de rien... 6 mois après, mon enfant, à 17 ans... Je voulais pas lui acheter de moto, de scooter. Il est monté à l'arrière d'un gamin et ils ont eu un accident. Il est devenu tétraplégique.
Ton fils?
C'est ça. Ouais, ouais, mon fils a 17 ans. Il est très sportif. Il voulait être champion de basket. Bref.
Oh là là.
17 ans, il m'arrive ça, il lui arrive ça.
Oui.
Son papa ne nous parle plus puisque, voilà, c'est un connard.
Non, c'est fou, hein, quand même.
Et du coup, mon fils décide de partir dans le sud.
D'accord.
Parce qu'il avait froid après l'accident, il avait
Il voulait changer de vie. Ah, oui.
Voilà, bon. Tout ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, j'ai vécu 20 ans de violence conjugale, hein, où j'ai une force, je me prends pour une. Je me suis pris pour une. Comment dire, superwoman. Parce que le cerveau, je voulais dire, il a plein de pouvoirs magiques.
Oui, il y a des ressources.
Qui se mettent en place naturellement quand on est en état de survie. Et ce que je voulais dire, donc, toutes ces épreuves-là, il faut les prendre comme un cadeau, parce que moi, ces 22 années de violence, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont fait que révéler tout le bien qui était en moi, en fait. Parce que j'ai donné, mais le meilleur de moi-même, pour
c'est
être aimée ou pour ne pas recevoir les coups, vous voyez ce que je veux dire?
Non, je vois.
Comme un esclave avec son maître, quoi, à un moment donné. Et puis je voulais le changer aussi à un moment donné. J'ai mis à faire la psychologue. Et le... Bref. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même.
C'est magnifique.
Je n'aurais jamais pu donner avec quelqu'un d'autre, peut-être, ou avec une autre histoire.
Oui, oui, oui.
Donc moi, ça m'a révélé ça. Et pour moi, c'est un véritable cadeau.
C'est une renaissance. Voilà. C'est magnifique.
Et après, quand il y a eu l'accident de mon fils,
de ton fils,
arrivé,
ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis le deuxième jour, le premier, j'ai pleuré. Le deuxième jour, il y a eu une petite couronne dorée qui est apparue sur ma tête. Vraiment, j'ai visualisé.
Ah oui?
Et je me suis dit, je suis l'élu. Si on m'élit encore pour cette épreuve, c'est que j'ai toutes les qualités pour la traverser. Donc je me suis vue comme une élue. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, mais je vois. Mais c'est ça.
Reconnais ma qualité et dire, toi, tu peux y arriver.
Oui,
et
oui.
Ça va t'apporter quelque chose. Donc j'ai été voir mon fils. Et je lui ai dit, Noé, ta vie, elle va être extraordinaire, je le sais. Voilà, mieux que si tu avais été dans ta petite vie ordinaire. Quoi.
C'est ça.
Tu vas rencontrer des gens extraordinaires, tu vas avoir un destin extraordinaire. Et du coup, on est porté par une espèce de, je sais pas, de fureur de vivre. Enfin, moi, de toute manière, depuis tout le temps, j'étais animée par ça. Il peut m'arriver quoi que ce soit, j'arrive à tourner les choses. Je vais dire aux gens, faites en sorte. Voyez votre vie comme si vous étiez dans un film. Vous êtes l'héroïne. Moi, je me suis vue comme l'héroïne du film. Et même s'il y a des malheurs, à la fin, le film, il reste très beau. L'héroïne aussi.
Comme
si on la voit pleurer. Donc, je me suis toujours essayé de me trouver toujours belle. Et pour ça, vous n'avez qu'à aussi danser. On va me prendre pour une tarée.
Pourquoi tarée? Non, moi, j'adore danser.
Voilà, danser, il n'y a pas plus réparateur que la danse. Moi, je me suis roulée par terre à danser quand je souffrais trop. Et maintenant, c'est reconnu par tous les thérapeutes et tout.
Oui, oui.
Les danses, voilà.
Exactement.
Il n'y a pas plus magique que la danse,
Pas
plus réparateur.
Oui, oui.
Faites-vous rêver. Moi, je me fais rêver tout le temps. Je suis tout le temps en train de rêver. Oh, j'ai envie de faire ci, oh, j'ai envie de faire ça. Toute ma vie, je n'ai pu rien faire. Mais je m'empêche pas de
rêver.
Imaginer, j'ai envie de faire ma photo.
Mais ils sont pas. Mais bien sûr, bien sûr. Mais il faut vivre. Il faut toujours avoir des projets. C'est ça, on se remplir, de projets, de rêves, peu importe lesquels. Voilà, si on les réalisera pas tous, peu importe.
Mais non. Mais voilà, laisser rêver les gens, c'est ça qui fait vibrer. Moi, j'ai envie de vibrer dans la vie. C'est tout ce que je cherche, vibrer. Donc, je tête mon corps, je fais des expériences personnelles, je me roule par terre, je m'aperçois que ça me procure des choses énormes.
C'est formidable.
Je fais des positions de yoga ou je
tout.
Ne sais quoi.
Et en forêt, est-ce que tu vas en forêt, forêt?
Ah, bien, alors.
Waouh, les arbres.
C'est mon oxygène. J'habitais dans le Limousin. Ça fait 4 ans que je suis là.
Ah, oui.
Je déprime ici.
Ah, mais ça, je te comprends.
Pas du tout.
Tu es où exactement? Parce que le 13.
À La Ciotat.
Ah, oui, d'accord.
Voilà, donc il y a le port.
Oui, oui.
Avec tous les restaurants, j'ai pris 10 kilos parce que j'ai pris.
Oh là là, ah oui.
Il y a une rue avec des petits magasins, mais il n'y a rien comme centre-ville, quoi.
Ah, ouais, ouais.
Rue, en plus, il fait froid.
Ah, ouais.
Et puis tout, il n'y a pas d'arbres. Moi, dans le Limousin, partout où je m'arrêtais, je me roulais dans l'herbe. Oh. Il y avait des lacs partout, on était sous les arbres.
Magnifique.
C'est magnifique, le printemps, c'est génial.
Mais
j'entendais les oiseaux du matin jusqu'au soir, je vibrais la nature là-bas. Voilà.
Ici,
je me sens comme une.
Et est-ce que tu projettes, justement, dans tes projets, de retourner dans le Limousin ou une autre région?
Non, mon fils, je suis obligée de rester avec mon fils parce que je fais un peu son aide malade.
Enfin, d'accord.
Les dents familiales.
Oui.
Et donc, on a comme projet d'acheter une maison parce qu'il va être indemnisé et qu'on peut prétendre à acheter une belle maison pour lui.
Ah, mais c'est génial!
Il va s'installer à Marbella.
Quoi?
Quoi?
Donc, à Marbella? Ah oui, en Espagne!
Voilà.
Ah, bah oui, moi je vais à Malaga, alors donc Marbella c'est à côté. Waouh! Ah, bah c'est génial! Voilà notre point commun. Je disais, mais on se ressemble énormément et je cherchais tous ces points communs. Mais alors là, franchement, ah oui, on a vraiment un sacré point commun parce que moi je suis andalouse maintenant, ça y est, depuis un certain temps.
Oh,
ah, mais je me sens andalouse parce qu'on a le droit de choisir.
Eh oui.
Eh ben voilà. Ben moi j'ai choisi d'être andalouse. J'adore l'Andalousie, j'adore l'Espagne, j'adore cette culture, j'adore les gens, j'adore le climat, j'adore tout là-bas. Tu sais que les rêves sont faits pour être réalisés. J'ai toujours rêvé de continuer, parce que j'aime pas dire terminer ma vie, parce que pour moi, en terminant rien, on passe après une autre dimension. De continuer ma vie là-bas, en Andalousie, je vais concrétiser ce rêve. Ah, mais j'adore. Ah, ben, on se rencontrera, mais bien sûr.
Parce que mon fils, en plus, il est extraordinaire, il faut que tu le rencontres.
Ah, ben, bien sûr. Ah, ben, avec plaisir, Pascal.
Tu verrais comme il est intelligent. Il connaît mille choses. Il apprend des trucs extraordinaires aux gens. Tout le monde était paqué devant lui.
Parce que, tu sais pourquoi?
Il fait de la musique.
Parce que son accident, ma chérie, c'est pas pour rien qu'il est arrivé. Cet accident, tu comprends? Handicap, c'est nous qui, avec notre regard, on regarde les gens, et chacun, l'autre il est brun, l'autre il est blond, l'autre il est petit, l'autre il est handicapé. On est des gens, mais vraiment, on n'est pas terminé, quoi. Alors que c'est pas ça qu'il faut regarder. Moi, quand je regarde une personne, je regarde son regard, tu vois. Et son regard, pour moi, il y a des regards qui sont magiques. Et c'est ça qui est important. Eh ben, ton fils, il fallait qu'il passe par ce chemin-là, tu vois, par cette épreuve, pour comprendre certaines choses, pour ne pas se perdre dans les dédales de la vie. C'est ça. Et ça l'a enrichi. Je suis sûre que ton fils, il est riche à l'intérieur. Je suis sûre.
Oh là là.
Bien, voilà.
Incroyable. Il a des projets de musique, tu sais, avec un ami. Enfin, il fait des rencontres extraordinaires. Malgré qu'il est au lit, c'est incroyable.
Mais oui, mais il fera plus d'efforts que s'il était entre guillemets valide. Il va faire plus d'efforts. Il n'aurait pas fait d'efforts parce qu'il aurait dormi sur ses lauriers.
Non, mais c'est quelqu'un de feignant, hein, attention. Hein.
Oui.
Il est très bizarre.
Il a un rythme.
Comment dire, il est très intelligent dans cette façon de faire, quoi. C'est-à-dire, je vais toujours à la solution la plus facile, mais la plus rapante.
Oui, c'est son rythme à lui, ça se respecte.
Tu sais, c'est un petit Bernard Tapie, voilà. Je compare à lui. Hein.
Ah oui. Formidable.
Il est trop.
Ah, formidable, à Pascal. Que c'est un.
Ah, oh, ouais, j'espère que. Tous les sujets sont passionnants et j'adore t'écouter.
Ah, c'est
si
gentil.
Je suis genre, si je pouvais lui parler, si je pouvais dire ça, si je pouvais dire ça.
Mais il faut que tu reviennes, hein. C'est pas t'appelles aujourd'hui, voilà, premier appel, terminé, t'écoutes.
J'ai parlé toi à mon fils. Je suis tombée sur une radio où j'ai entendu une femme. J'ai l'impression que c'est moi qui parle.
Waouh.
Du coup, il y a des connexions, tu vois.
Oui.
Il y a des gens, il y a des connexions.
Ah oui, il y a des connexions.
On le sent.
Ah oui.
Je connais sur la personne depuis toujours.
Mais oui. Mais oui, parce qu'on est tous les maillons du même chaîne, tu comprends?
On est sur
des chaînes. Et à un moment donné, t'as dû être un maillon à côté. Voilà, on était l'une à côté de l'autre, c'est comme ça. Voilà, on sent, tu sais, quand tu discutes, tu parles avec une personne, il y a quelque chose, tu sais, on peut pas, c'est, voilà, tu as lu la...
Ah oui, moi ça m'est arrivé d'avoir eu des coups de foudre, tu vois, de rencontres, vraiment des coups de foudre.
Mais oui, et tu ne sais pas pourquoi, mais l'univers, c'est... Tout à l'heure, on parlait avec Karima, qui est très intéressante aussi, Karima qui parlait de l'alchimiste. Ben, dans l'alchimiste de Paolo Coelho, on peut retrouver, on peut trouver les réponses à, pas nos questions, mais de ce qu'on se dit là ce soir, tu comprends? Donc les personnes qui se rencontrent, c'est pas anodin, pourquoi les rencontres, pourquoi ceci, cela.
Ah non, non.
L'alchimiste, c'est le début de la philosophie, il faut vraiment le lire, hein, c'est
ça. C'est
vrai. Ah, alors là je te préconise, hein. Alors je pense que il doit être aussi en audio, tu sais, parce que des fois on fatigue et tout ça, on écoute, voilà. Moi je l'ai lu, mais tu le trouves, hein, tu le trouves sur internet, etc. Tu peux le trouver aussi.
Je lis avec mon fils hier le soir, tu
voilà.
Vois,
ah ouais, mais écoute l'alchimiste, vraiment, de Paolo Coelho. Ok, Pascal.
Merci.
Et promets-moi de revenir, attention. Hein.
Ah oui.
D'accord.
Ah oui.
Hein, reviens autant de fois que tu veux, tous les soirs.
Qu'est-ce que tu fais rire? Oh, j'adore.
C'est vrai.
J'aimerais trop t'inviter un soir, tu vois, qu'on dîne et qu'on partage une petite.
Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir, on partagera une pizza. Voilà, avec plaisir.
Pascal, je me permets, depuis que je connais Vanessa, tout comme toi, j'ai plus besoin d'aller à la salle. Je travaille les abdos tous les soirs à force de rigoler. Là, je te jure.
Ah, mais
je suis
sûr. Attends, moi, au niveau sportif, alors j'ai des gens autour de moi qui font du sport à la salle et tout. Je lui tiens suite, j'y vais pas. Moi, j'ai des petits exercices, comment dire, trop faciles et qui sont tellement efficaces. Tellement efficaces.
Ah oui.
Par exemple, tu te mets debout et tu piétines, tu sais.
Ah oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tu piétines, tac, ouais, ouais.
Ça, ça te gagne le tout.
Ah oui.
Et la planche de gainage.
Ah oui.
Devant et derrière, tu fais ça, ça
vrai.
Ce matin.
C'est vrai.
C'est bon.
Oui.
Et moi, j'ai découvert un truc, je voudrais le dire aussi à tout le monde.
Ah, dis-le.
J'ai une petite brosse qui est magique.
Ah.
Tout le monde a essayé, on me dit, c'est vrai que c'est super.
Alors, dis-moi, moi, j'adore les trucs comme ça, moi.
C'est une brosse naturelle. Et après la douche,
oui.
Je commence par les pieds et je me fouette. Enfin, je me brosse en fouettant,
non.
Tu vois.
Ah bon, tu m'as fait peur là, se fouetter. Non, madame, je suis pas un mazou.
Et tu remontes comme ça en te brossant.
Ah ouais.
Et ça fait un drainage lymphatique.
Ah, c'est génial.
Oh là là,
mais ça, j'y crois,
ça,
moi. Ouais.
Et même après, quand t'arrêtes, tu ressens que ça bouillonne.
Ah ouais. Comment circule. Elle s'appelle, cette brosse?
Sur internet, tu marques brosse de massage, je pense.
Brosse de massage.
Une brosse naturelle en bois.
C'est naturel, hein, ça vibre pas électrique,
non,
hein.
Non,
d'accord.
C'est naturel.
Ok. D'accord.
Et alors, vous
brosse de massage.
Les jambes, tout le corps, vous remontez le ventre, tu tournes, tu peux tourner les fesses.
Ah ouais. Oh, c'est génial. Ah ben écoute, je vais me la procurer. Elle est où? On a perdu notre ami Pascal. Elle parlait, et puis là. Pascal. On a Sophie. Ne pars pas, Karima. Tiens, je te garde. Karima, tu es là avec nous. On prend Sophie. Oui. On prend Sophie. Bonsoir, Sophie.
Oui, bonsoir. En fait, j'adorais vous entendre toutes les deux parce que ce dont vous parliez, ça recoupe un peu ce qu'on appelle la force de la pensée. Je m'entends en écho. Est-ce que vous m'entendez normalement?
Nous, on t'entend bien, hein, vraiment. Hein.
Bon, alors, moi, je m'entends en écho, mais il n'y a que moi qui le subis, donc c'est pas un souci. Alors, non, je prenais le train en marche, j'avais très peu de choses à dire.
Oui.
Simplement, votre conversation était intéressante parce que, Pascal et toi, vous êtes formidables.
Merci.
Ça touche à la force de la pensée.
Mmh.
Et pour ça, c'est bien quand on est plusieurs à s'entraîner.
Oui.
Parce que quand on expérimente, il n'y a rien à faire, ça marche.
C'est vrai.
Voilà. Ça marche. Et ce qui est bien, c'est de partager ça avec plusieurs personnes, parce que c'est une question d'entraînement. Voilà.
Oui.
Bon, en fait, moi, j'avais pas grand-chose à dire.
Oh, ben si.
Que je voulais... Non, mais attends. Quand j'ai entendu ce papa qui voulait envoyer un téléphone à sa
fille. Ah oui, ça fait 18 mois.
Alors, moi, j'ai entendu, je ne l'ai pas oublié, ou je l'ai lu dans un cabinet, je ne sais pas quoi, mais quand tu mets le dessin côte à côte de deux enfants, hein, de deux jeunes enfants, bon, 18 mois, enfin bref, bon.
Mmh.
Tu mets côte à côte deux dessins. Eh bien, celui de l'enfant qui a regardé les écrans, c'est un dessin qui est pauvre. Mais vraiment, ça m'a choquée. Je revois les deux dessins côte à côte, et un dessin qui était très imaginatif, c'était une maison avec il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée, etc., des bonhommes. Alors que l'autre à côté, c'était un dessin mégroulé, un dessin de débile. Bon. Alors, j'espère que ce papa nous entend, parce que si votre gamine soit débile, eh ben, il a qu'à lui envoyer son téléphone.
18 mois, c'est...
Voilà. Oh non, mais...
Alors j'ai sursauté, il me dit si, elle veut, parce qu'elle prend suite de sa mère, elle était insistante que ce que je dise. Mais.
Non, mais il faut savoir dire non.
Eh oui.
Parce que, les psychologues, on les aime pas beaucoup, hein, parce qu'ils mettent leur nez dans nos petites affaires, ça nous plaît pas toujours. Bon, mais, il y a quand même ça de sûr, c'est que si tu, en tant que parent, si tu sais dire non à ton enfant.
Tout à fait.
Tu le prépares à tous les noms qu'il va recevoir.
Exactement.
Dans la vie.
Mais oui, et tu le prépares à la frustration, à accepter, à
tu
prendre
à
la frustration.
À la frustration, tu vois. Parce que sinon, au premier nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir addict à la bouffe, à la drogue, à Dieu sait quoi.
Oui, et puis à l'agression aussi, à l'agressivité, hein, parce qu'on voit bien les jeunes qui sont très agressifs actuellement, hein, des jeunes de plus en plus jeunes, 13 ans, 14 ans, qui se tapent à coups de couteau, enfin bref, on voit ce qui se passe, enfin c'est d'une violence inouïe, mais ça c'est dû justement, parce qu'ils sont pas habitués à être frustrés, ils ont pas été éduqués dans la frustration, donc il n'y a pas le non, hein, pour avoir la paix, certainement, oui, ok, voilà... Et puis, c'est voilà ce que ça donne. Enfin, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais tu as raison, Sophie. Entièrement d'accord avec toi.
Ça construit. Mais quand je suis à la caisse et qu'il y a des parents avec leur long mouflé, là, j'annonce la couleur. Hein. Je dis, bon, moi, j'ai pas eu d'enfant, donc de quel droit je me mêle.
Mais comme tout le monde, tu as le droit de donner ton avis. Pourquoi?
Je les encourage, je dis bon, c'est pas facile, mais vous lui donnez de la force pour plus tard.
C'est ça. Voilà. Mais complètement. Ouais. Sophie, tu ne pars pas? Est-ce que je peux te garder? Parce qu'on a une pause, ma chérie. Tu as des choses intéressantes à dire.
Oui, écoute, je te rappellerai, c'est promis.
D'accord.
Parce que là, franchement, je suis attendue, il faut que je fonce. Hein.
Ah oui,
mais
oh là là.
De temps en temps, j'écoute cette émission et elle me plaît beaucoup.
Ah bah écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Sophie, promets-moi de revenir comme Pascal m'a promis aussi de revenir, ok?
Avec grand plaisir.
Je te fais de gros bisous. Bonne soirée.
Moi aussi, Vanessa, au revoir.
À bientôt. Au revoir, Sophie. Alors, Karima, tu ne pars pas, ma chérie. Je te reprends juste après. On va faire un petit débat. Il y a Cédric et les autres. Dépêchez-vous. Allez, on vous attend. 01 53 48 3000. On marque une courte pause et juste le temps de tourner la tête et de voir ce standard se remplir par vos appels. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 et on reprend avec Karima du Var qui est toujours là, patiente, bravo,
oui,
merci. Merci d'avoir attendu Karima, on a échangé avec Pascal, Sophie, c'est assez intéressant, hein. Et puis on apprend des choses, hein. Moi j'ai noté, hein, brosse de massage, voilà. Et on apprend. Et puis elles ont vraiment des choses à dire, très intéressantes. Pareil, on est parti dans une forme de philosophie. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, comment dire, on monte un peu sur un nuage et on quitte un peu la terre de temps en temps. Ça fait pas de mal, hein, parce qu'on est tellement enlisé, hein, mais vraiment enlisé, mais vraiment. Hein, parfois, et que ça fait du bien de... Quand tu disais tout à l'heure, moi, la solitude, je connais pas, je suis toute seule, je n'ai pas besoin d'avoir du monde autour de moi pour me sentir... tu es pleine, quoi. Tu n'as pas... Oui. Tu as des gens qui ont beaucoup de monde autour d'eux. Regarde, par exemple, les gens connus, enfin, les acteurs, les artistes, tout ça, ils ont beaucoup de monde autour d'eux. Ça ne les empêche pas de tomber, justement, dans des dépressions, de faire des choses, des fois, ça... pour oublier leur mal-être, parce qu'ils ont du mal-être, l'alcool, des choses comme ça. Il y a un fait divers qui a défrayé la chronique, Dieu merci, ce chanteur, pour ne pas le nommer, Kenji Girac, tant mieux pour lui, il s'en est bien sorti, hein, et ça aurait pu être pire, hein, parce que tout à l'heure j'écoutais l'intervention du procureur, et qui disait que bon, c'est passé d'un cheveu, hein, parce que là où la balle est passée, il y avait juste le cœur, quoi, et d'autres organes qui étaient vitaux, enfin. Et il s'en est sorti, Dieu merci, hein, pour lui, pour sa famille. Maintenant, c'est voilà, peut-être qu'il souffrait d'un mal-être, parce qu'il disait le procureur que bon, il y avait cette histoire d'alcool, de substances, etc. Donc, tu vois, bon, on lui souhaite vraiment que ce soit une leçon et qu'il aille mieux et que dans sa petite famille ça se passe bien, vraiment de tout cœur avec lui et sa petite famille. Mais pour te dire que bon, l'argent, tout ça, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Non. Et que le mal-être, même s'ils sont entourés, ils ont plein de monde autour d'eux, mais ils souffrent plus de solitude que d'autres. C'est ça.
C'est vrai.
Ben oui.
C'est vrai.
Ben oui.
Justement, moi, je voulais rebondir sur ce que disait le dernier auditeur hier qui a appelé en parlant du monsieur qui avait 80 ans.
Oui.
Je sais pas si tu te rappelles de ce monsieur qui prenait, bah, je dirais pas qu'il prenait la défense, mais qui comprenait la démarche de la personne âgée. Voilà. À un moment donné, il a dit quelque chose dont je voulais rebondir, mais il a dit, mais de toute façon, si ses petits-enfants venaient le voir, c'est aussi par intérêt, pour avoir les cadeaux et tout. Et moi, je dis, mais pourquoi vous élevez vos enfants? Moi, j'ai mes enfants, mon fils, il aura 19 ans, ma fille, elle a 16 ans. Ouais. Eh ben, jamais ils vont voir leurs grands-parents pour avoir quelque chose. Mais justement, non. Ils vont les voir parce qu'ils sont seuls, parce que ça leur fait plaisir de passer un moment avec les grands-parents, parce que apprenez les valeurs aux enfants. Je veux dire, un enfant, il n'est pas comme ça. Si on lui met toute la journée, l'argent, ça fait tout. Là. Forcément, il va avoir un intérêt à tout.
Oui, et puis l'enfant, ses besoins, ses envies, ses passions vont être complètement erronés parce que cet enfant qui a été habitué à ce qu'on lui mette tout de matériel, hein, devant lui à chaque fois qu'il ouvre la bouche, eh ben d'abord il va, pour lui tout est acquis déjà, et le côté humain, bon, je le vois pas trop, c'est ça qui est dommage. Et en plus de ça, cet enfant, je veux dire, il n'aura pas appris les vraies valeurs, parce que tout ce qui est valeur, c'est de la valeur matérielle. Une montre qui coûte tant, une voiture qui coûte tant, tout tourne autour du matériel, quoi, de la matière. Et non, tout passe par l'éducation, c'est vrai, les fréquentations, l'éducation, c'est tout un travail, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas rien.
Après, oui, c'est ça, je veux dire, on met des enfants au monde. Moi, mon fils, quand il était plus petit, je le réveillais à 6h, je disais, viens, on va faire la course à pied. Et j'ai passé avec lui mes meilleurs moments.
Wow.
Je faisais avec lui du foot, avec ses amis, des fois je les voyais, ils allaient dehors, je prenais la balle, je disais, allez, garçon, allez, on court, on va au stade. On va faire un match. Il y a plein de choses. Alors, si vous voulez pas vous occuper de vos enfants, c'est vrai, il y a des personnes qui vont suivre vraiment. Après, moi, j'ai fait des choix par rapport à mes enfants. J'aurais pu me dire, tiens, je vais acheter une maison, je vais trimer toute ma vie pour payer ma maison, pour leur laisser un bien. Mais moi, je voulais leur laisser des souvenirs, des moments.
Ah oui, t'as tout dit.
Voilà, et des valeurs, comme t'as dit, et les enfants, je t'assure que moi, quand j'entends les jeunes, je vois mon fils, par exemple, avec ses amis, ils sont pas du tout comme ça. Tous les jeunes ne sont pas les mêmes. Non. C'est pas vrai, il y a des jeunes qui ont la tête sur les épaules, vraiment.
Mais ça dépend de l'histoire de chacun. Et puis de l'éducation, tu parlais de l'éducation. Et ça en fait partie, hein. Et oui, et heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais justement, il faut que, enfin, l'effet de mimétisme passe beaucoup par les réseaux sociaux, malheureusement. Les réseaux sociaux ont du bon par certains côtés, mais pas que. C'est ça le problème, le souci, il est là. Et plus on peut préserver les jeunes et pas leur mettre entre les mains, parce que le cadeau cadeau de Noël, d'anniversaire, à 5 ans, c'est un écran. Voilà, un écran.
Moi, le premier portable que j'ai acheté à mon fils, il avait 12 ans. Hein. Pourtant, tous ses amis, ils avaient le portable avant.
Et voilà.
Moi, je l'ai acheté, il avait 12 ans.
C'est bien, non, mais
donc,
c'est bien.
Je
l'ai préservé.
Et la PlayStation, c'était, je crois, 13 ans. Juste l'année d'après, je lui ai fait un cadeau de Noël.
Voilà, parce qu'il faut.
Voilà, c'est parce qu'il fallait aussi.
Oui, oui.
Après,
mais en même temps. Et en même temps, il faut leur, voilà, il faut, dans leur chambre, il faut laisser traîner des bouquins, des livres, des choses vrai. Intéressantes, des choses un peu, tu vois, qui c'est sortent ça. Un peu, voilà, qui peuvent les intéresser. Mais leur mettre ça aussi, ok, écran, mais le livre, c'est bien, c'est pas mal aussi de lire. Tu vois, il faut pas passer du temps que sur les écrans. Il faut leur apprendre c'est aussi ça. À lire. Et les enfants font comme les parents. S'ils voient les parents prendre un bouquin,
oui,
en été, pendant les vacances, sur une chaise longue, tu vois, ou une terrasse, toujours un bouquin dans ton sac. Les enfants font pareil. Ils font pareil. Enfin, c'est l'effet de mimétisme. Et quand on voit des parents aujourd'hui, malheureusement, c'est pas de la critique, mais on le voit. En été, les terrasses, tu vois des familles, le père sur son téléphone, la mère sur le sien.
C'est vrai.
Ben, les enfants, ils font pareil, hein, tout le monde. Et on se demande pourquoi ils sont tous ensemble. C'est fou. Je te disais tout à l'heure, cette mère, ces mères qui disent que quand elles, voilà, quand elles doivent appeler leurs enfants pour venir manger ou chercher à manger, ben aujourd'hui, on n'appelle plus les enfants par leur prénom parce qu'ils ont un casque sur les oreilles, donc les oreilles n'écoutent plus. Donc on leur envoie un texto. Voilà. Alors on envoie un texto pour leur dire bon, ben écoute, viens manger ou comment on fait, etc. Enfin, ils vivent dans la même maison, tu vois, mais la communication passe par les écrans, encore une fois.
C'est ça.
Dans la même maison, c'est fou. Une fois, il y a un papa, alors je ne sais pas si tu étais à l'écoute ce jour-là. Il y a un papa qui avait appelé. Mmh. Il y a un moment de ça, hein, je pense. Tu sais, les références, c'est Covid. Période Covid, c'était avant. Et juste avant, un petit peu. Et ce papa qui s'était plaint à l'antenne de sa fille, qui le pauvre, il en avait gros, gros sur le cœur. Sa fille de 12 ans. Alors, donc, qui bon, ben, est tout le temps, sur son téléphone. Et puis, du coup, les résultats scolaires, eh ben, avaient complètement chuté. Et donc le père, un bon père responsable, quoi. Donc il retire le téléphone à sa fille le soir en lui disant non, tu fais tes devoirs, tu remontes tes notes, et puis après on verra, mais tu passes pas tes nuits sur le téléphone, il est hors de question, et voilà, et je veux que voilà que tu aies des résultats, c'est pour toi. Et la fille tombait dans des crises, mais d'hystérie, hein. Elle hurlait, et en pleine nuit, sachant que les parents n'aiment pas s'attirer les histoires et se faire remarquer. Et il me dit, elle sait qu'on n'aime pas par rapport au voisinage, pas de cri, ni rien. Enfin, c'est des gens discrets. Et bien, la fille a crié. Alors, comme ça, pour leur, oui, comme il disait, pour leur mettre la honte. Voilà. Alors, donc, le père, il cède. Il dit, je cède parce que sinon, il dit, une fois, ils ont même appelé la police parce qu'elle hurlait comme si on était en train de la torturer, quoi. Et donc après, les policiers, ils ont compris, hein, ils ont compris ce qui se passait, ils sont repartis. Mais c'est grave, parce que lui, il était très mal à l'aise, il est gêné. Et ben, il arrive toujours à céder, parce qu'il me dit, je peux pas faire autrement. Alors on avait échangé, donc j'ai essayé de lui donner quelques méthodes et tout, mais c'était compliqué. Ce père, je voyais bien qu'il n'était pas du tout démissionnaire, mais qui était désespéré. Vraiment, le désespoir total. Est perdu, hein, ne sachant plus comme par quel bout prendre. C'est fini, l'éducation, tout ça, ça lui échappait. Et c'est pas de sa faute.
Problème, en fait,
terrible, hein.
C'est sûr, mais le problème dans l'éducation, par exemple, sur les résultats scolaires, moi, quand je vois les parents autour de moi, ils éduquent tout le temps l'enfant à dire il faut avoir des bonnes notes, faut avoir. Moi, j'ai travaillé déjà dans le système scolaire, et à un moment donné, il faut falloir responsabiliser l'enfant sur son avenir. En fait, lui dire pourquoi il doit faire des études déjà, pourquoi il doit apprendre.
Oui, mais t'as des enfants qui comprennent, mais t'as des enfants. Moi oui, la fille de cet auditeur, hors de question, parce que je voyais bien, ce père avait, on voyait, un langage posé, etc. On voyait que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, compréhensif. La mère, c'est pareil, hein, et donc tout se passe bien dans la famille. Ils ont deux enfants. Avec le plus jeune, ça se passe très très bien. Son petit frère, parfait. Mais cette gamine, ah, elle est sortie complètement de... Voilà,
oui, c'est... ma fille, elle était comme ça aussi.
Oh là là, et puis hurlait. Était,
ouais.
Alors il me dit, on a essayé, sa maman, tout ça, lui faire comprendre, même à l'école, à l'école, avec les enseignants, tout ça, pour lui dire, c'est pour ton avenir, c'est bien, voilà. En lui expliquant bien les choses, hein. Mais non, rien entendre. Elle voulait, c'était devenu une addiction, comme une drogue, sur son téléphone. Tu lui donnes pas son téléphone, elle te hurle.
Moi, en fait, moi, quand elle hurlait, je hurlais aussi.
Ah oui, mais comment tu... Mais lui, il me dit, les voisins, ils ramènent la police et tout, comment faire?
Ouais,
foutait, hurlait. Mais moi, son grand frère m'a beaucoup
aidé. C'est dur, hein, t'as vu comme c'est dur.
Ouais, oui, il m'a beaucoup aidé. Par exemple, sur TikTok, il a dû la bloquer. Moi, il a eu le déclic sur les études. Ma fille, c'est très compliqué parce qu'elle aimait pas apprendre et tout. Je passais du temps avec elle et tout, je lui expliquais. Mmh. Rien à faire.
Ah ouais.
Et tu vois, Vanessa, des fois, le déclic, il vient. Je crois qu'elle avait 14 ans ce jour-là. Mmh. 14 ou 13 ans, elle venait d'avoir 13 ans. Et un jour, elle arrivait de loin, mais elle est arrivée en retard, une demi-heure de retard. Et tu vois, moi, j'étais assise et j'avais regardé la veille un truc de disparition. Et j'étais là et pendant 10 minutes, un quart d'heure, et j'ai commencé à pleurer, à me dire ma fille, elle est où? J'avais vraiment, je commence à trembler, à me dire. Et je la vois de loin arriver.
Oula.
Et c'est pas grave. En fait, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et je la vois arriver, j'étais contente, je fais des coucous et tout pour qu'elle arrive plus vite et tout. Et elle monte et elle s'effondre devant la porte en larmes. Je la regarde, je me dis, qu'est-ce que t'as en fait? Elle me dit, j'ai eu un avertissement de travail. Ah. Et je la prends dans mes bras.
Oh.
Et je lui dis, écoute, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois, c'est pas grave. C'est pas une finalité en soi, c'est grave. Mais en même temps, c'est pas grave parce que ta conscience, en fait, vu que tu pleures et t'es pas bien, c'est que t'es consciente que c'est pas bien la note que t'as eue. Donc tu feras mieux la prochaine fois. Mmh. Et je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, t'imagines, il y a une demi-heure, j'étais presque en train de pleurer parce que je me disais où t'étais, parce que pour moi, t'avais disparu.
C'est
comment on imagine, où est pas.
Ah oui, je sais.
Eh bien, écoute-moi, depuis, elle a 16 de moyenne. Depuis, tous
c'est
les trimestres.
Le déclic.
Entre 15 et 16.
Incroyable.
Le déclic.
Ah ouais, le déclic. C'est le fou, déclic. Hein.
Là, elle est en première, elle a eu les félicitations, 16 de moyenne, elle s'acharne, elle travaille.
Elle a eu un passage. Ouais. Ça arrive non plus, faut pas non plus en faire des montagnes. Hein. Il arrive c'est qu'un un gamin, à l'adolescence, il a des moments de faiblesse, des moments de petite crise, on dit la crise d'ado. Hein. Donc bon, c'est ça, faut pas non plus. Non, tu as des enfants qui sont très difficiles, très compliqués, mais pas tous. Les petites crises d'ado, toi tu as compris que c'était une crise d'ado et tu as su trouver adopter le comportement qu'il fallait, les paroles en même temps, tu as réglé le problème. C'est ça, hein,
Karima.
Hein.
C'est ça,
ma chérie.
J'étais consciente.
Ah oui.
J'étais consciente que cet âge, entre 12 à 15 ans, les gamins, si on les laisse dans leur crise, si on ne fait pas quelque chose pour faire un déclic ou quoi, c'était limite trop tard parce qu'ils peuvent être déscolarisés, c'est pas rien. Ils peuvent mal tourner parce qu'ils peuvent avoir n'importe quelle fréquentation. Moi, quand je disais mon fils, je vais aller en soirée. Alors j'avais des potes qui me disaient, mais mes parents ils veulent pas, mais tu peux appeler mon père pour lui dire, j'ai pas de soucis. J'appelais le père en disant, t'inquiète pas, il dort chez moi ce soir. Et j'amenais tout le monde en soirée. Et j'attendais à la porte. Ah non, mais ils m'ont fait voir de toutes les couleurs.
Tu disais pas non, mais tu étais présent, tu étais là. Et tu attendais, et tu raccompagnais tout le monde. C'est beau, c'est tout un travail, hein. Parce que sinon il le ferait en cachette, il le ferait mal déjà. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. C'est comme tout, vraiment. Hein. Tout ce qui touche un adolescent, eh bien si on est trop sévère, bien entendu qu'il va faire les choses, mais il va les faire mal ou elle va les faire mal. Et là le danger guette. Tu comprends ?
C'est ça.
Le problème, il est là. Mais tu as su. On va prendre Mourad avec nous. Bonsoir Mourad.
Bonsoir Vanessa.
Mourad de Paris. Bonsoir, bienvenue Mourad. Bonsoir,
merci.
On est avec Karima.
Oui, j'ai écouté votre échange.
Oui.
Et voilà, si je pouvais rajouter quelque chose par rapport, vous parliez un peu des écrans, des habitudes des enfants, etc.
Oui.
Et là, j'ai un petit avis là-dessus, c'est que je pense que actuellement on a ce qu'on appelle l'avis de groupe et puis la vision du groupe. Et qui prime, et que tout ce qui est différent devient mauvais ou il est mal vu par la société. Donc, si on regarde par rapport aux écrans, donc si jamais un papa ou une maman donc empêche son fils d'avoir un portable, ou l'empêche de regarder trop les écrans, on lui donne pas de PlayStation, il devient comme un papa ou un parent qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas ordinaire, qui prive ses enfants et qui les laisse pas, qui leur donne pas la liberté qu'il faut, parce que on est une génération de numérique et qu'il faut vraiment donc marcher dans la même voie que tout le monde et que tous les enfants aient la même pensée, la même connaissance, les mêmes loisirs, les mêmes machins. Donc je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal. Et qu'on a le droit d'être différent. Et un enfant qui apprécie les livres, ça reste un enfant et qui a des connaissances peut-être plus développées qu'un enfant qui est penché vers le numérique, qui aime les jeux électroniques, etc., tout ce qui s'ensuit. Mmh. Et ça, je le constate de mon côté. Je constate que ce soit au niveau des écoles, au niveau professionnel, il y a cette tendance-là donc à avoir ou bien à donner une impression de groupe. L'impression de groupe et d'appartenance.
C'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Hein,
voilà, c'est ça, c'est l'effet de groupe. Ce que je trouve pas normal du tout. Et puis ce qui sort.
Mais comment on fait pour pallier à ça, justement, pour éviter. Comment, quand on est parent.
Oui.
C'est ça aussi, hein, parce que Karima, elle a trouvé le bon. Chacun a sa méthode, hein, mais bon, Karima, par exemple, c'est de par le dialogue et en même temps les occuper à autre chose et puis pour ne pas en faire des ennemis de nos enfants, parce que ils peuvent devenir les pires ennemis parfois. Alors donc elle a préféré un peu être dans la complicité entre guillemets tout en restant maman, hein, et gardant ses distances. Eh ben, elle les accompagne dans les sorties. Son fils voulait aller en boîte, les copains, ben elle les a accompagnés. Et elle est restée à attendre à la porte dans sa voiture. Après, elle a raccompagné tout le monde. Ils sont venus dormir chez elle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des contraintes, hein. C'est beaucoup pour elle, hein. Mais elle le fait. Elle sait pourquoi elle fait ça. Mais elle a sauvé la situation. Parce que dire non,
c'est un investissement. Oui.
Voilà, dire non systématiquement. De toute façon. Ils feront. De toute façon, quand t'es un gamin, voilà.
Ils
le feront mal.
Oui, bien sûr qu'ils le feront mal, mais après, je crois qu'il vaut mieux que ça vienne de la personne, qu'on arrive, à transmettre les idées, les bonnes idées, et que ça vienne vraiment de l'adolescent, de l'enfant.
Oui.
Que ça vienne vraiment de lui, que ça soit sa décision à lui, sa vision des choses, que de lui imposer les choses.
Oui, c'est
mais après,
ça.
Mais après ce que je pense aussi, c'est que il faut arrêter de s'immiscer de s'immiscer dans les affaires des autres dans ce sens-là. C'est que si on voit donc quelqu'un qui a une façon de faire avec ses enfants, c'est ses enfants, donc ça sert à rien de dupliquer sa façon de faire sur les autres. On peut donner des idées,
c'est vrai,
mais sans avoir à les imposer aux autres. Même si peut-être ça marche chez moi, je n'ai pas à les imposer aux autres.
Oui, c'est vrai. Non, mais je vois tout à fait, ça se respecte ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, et puis il n'y a pas c'est de méthode ça. Parfaite, et que chacun la classe. Toi, t'as la tienne, Mourad, qui me fonctionne bien, Karima la sienne, et je trouve ça formidable.
Après, Mourad, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai commencé ma carrière en tant que duxté dans les collèges.
En tant que, pardon ?
Éducateur spécialisé, en fait, dans les collèges et lycées. Pour les enfants décrocheurs scolaires, tu vois. Et ça m'a beaucoup sauvée parce que j'avais lu à l'époque, j'avais fait énormément de formations, lu beaucoup de livres, c'est très de contraintes. La plupart du temps, moi, ce que j'ai remarqué, les gamins en décrochage, ils ont des problèmes familiaux. Vraiment. À 98%, ils ont un problème de dialogue avec les parents, où il y a un souci quoi, au sein de la famille. Donc ils décrochent pas comme ça, en fait, les gamins.
C'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours une raison.
Il y a toujours une raison.
Si vous permettez, on prend Malika. Peut-être que Malika voudrait aussi intervenir. Mourad et Karima. Bonsoir, Malika.
Oui, bien sûr.
Oui, bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Malika. On est avec Mourad et Karima. Je pense que tu as aussi quelque chose à dire sur le sujet, je pense.
Excusez-moi Vanessa, j'ai pris l'émission en cours.
Oui.
Et vous parlez des jeunes, c'est ça?
Oui, justement, si tu as écouté un petit peu ce qui se dit, voilà. Les soucis que rencontrent les parents avec les écrans, avec les réseaux, avec tout ça, et que Mourad nous donnait sa manière d'agir et la sienne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, bon, ça marche. Karima, la sienne, et ça marche aussi. Karima, en plus, elle a de l'expérience avec les jeunes, puisqu'elle est dans le domaine de l'éducation. Tu travailles dans l'éducation nationale, je crois, Karima,
oui,
parce que tu dis...
plus maintenant, mais à l'époque, d'accord. Oui, j'avais commencé ma carrière comme ça. Ouais.
D'accord.
C'était tellement lourd que j'ai démissionné,
c'est du lourd. Hein.
C'est insauvable, en fait. Je ne pouvais pas faire de miracle, parce que si les parents ne se remettaient pas en question, si au sein de la famille, on ne change pas, le gamin ne changera jamais.
Ben, c'est ce que tu viens de dire. Tu as dit le décrochage, c'est souvent, peut-être pas toujours, mais c'est souvent un problème au sein de la famille. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas faux, hein. Ça, on peut pas dire le contraire, on peut pas nier, hein, Mourad.
Oui, bien sûr. Hein,
souvent, c'est le décrochage parce que les parents, ils sont pas derrière, ou il y a des histoires en famille, un divorce.
Exact.
Il y a la violence conjugale, tout ça, l'enfant. Il subit, quoi. Et Malika, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que toi, tu as une expérience là-dessus? Quelque chose?
Moi, j'ai pas eu de problème au niveau de ça, parce que je gérais très bien toute seule.
Tu gérais très bien toute seule? Tu avais toute seule, c'est-à-dire tu as élevé toute seule les enfants?
Non, quand j'étais mariée, il y avait le papa et moi, on gérait tout ça.
Ah,
on ne les laissait pas devant les écrans. Quand il y avait des écrans, on était devant.
Ils ont quel âge, tes enfants?
Ils sont grands, 27 et 21.
Ouais.
Ouais. Mais je sais que je leur ai pas donné des portables.
Ah oui.
Non, je leur ai
pas donné. T'avais de la résistance, hein. C'est
devait être compliqué. Ah oui, c'était vraiment la résistance. Il n'y avait pas de portable. Leur premier portable, le grand, il l'avait, vous savez, c'était les Nokia avant.
Oui, effectivement.
Voilà, je leur mettais juste pour les appeler, mais ils appelaient pas.
D'accord. Mais je crois que, tu sais, plus le temps passe, voilà. Je pense que c'est une question générationnelle, parce que ils ont 21 ans, 27 ans. Le temps, ça passe très 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 vite, hein, les choses.
Non, et
quand je dis que les choses évoluent, ouais. Malika, les choses évoluent très rapidement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les 12 ans, aujourd'hui les 13 ans, c'est plus l'âge de tes enfants, même s'ils sont jeunes, hein. Mais tellement les choses avancent, mais à une d'une manière fulgurante, les gamins d'aujourd'hui de 12 ans, 13 ans.
Mais Vanessa, c'est les parents qui achètent les portables. Moi, j'ai jamais acheté des portables.
Ah des fois les copains ils leur prêtent. Malika, les copains, ils leur prêtent des fois. Hein.
Oui, ils sont prêtés. L'essentiel, qu'il n'y en a pas chez moi.
Eh oui, mais non. Alors, les copains prêtent ou ils vont voler un portable, des fois. Il y a des parents qui me disent.
Non, ils ne volent pas. De ce côté-là, ils n'ont jamais volé. Non.
Ah oui, mais tu as eu cette chance-là. Mais t'imagines, un enfant dans la frustration.
Évident, hein.
Non, moi, vous savez,
non,
Vanessa.
Pas évident,
ouais. Je ne sais pas ce que Karima et Mourad pensent, mais enfin, moi, je sais.
Oui,
non,
c'est vrai, il a raison, Mourad.
Si je peux intervenir.
Oui, attends.
Alors, je termine. J'ai envie de terminer.
Oui.
Allô?
Oui, Malika, vas-y.
Oui, j'ai envie de terminer. Moi, je dis comment j'ai éduqué mes enfants. Après, il y a des parents qui sont forts et des parents qui sont faibles. Moi, j'avais du caractère.
Ouais, donc, moi-même, quand j'allais pas si tu, à l'école... Je ne sais pas si tu aurais le même caractère aujourd'hui si tu avais des ados de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Voilà, hein. On connaît tous des parents qui ont vraiment du caractère, du tempérament, et qui, les pauvres, sont complètement démunis.
Pourtant, pendant 10 ans, je les ai éduqués toutes seules. J'étais toujours derrière eux.
Oui, mais aujourd'hui, quoi. Attends, Mourad, il va te répondre. Oui, Mourad.
Oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une histoire de personnalité ou autre. C'est que la société actuelle, elle a une convergence vers le même point. C'est qu'à l'école, si jamais donc on a 20 élèves ou 30 élèves et que le prof leur dit tiens, eh ben voilà, vous me sortez votre téléphone et vous allez sur Google pour regarder telle chose, et que l'enfant voilà qui est votre enfant n'a pas de téléphone parce que vous l'autorisez pas à avoir de téléphone.
Ah ouais.
Vous voyez, ce que je veux dire.
Ah ouais, encore une fois, ouais, la frustration, tout ça, et puis la honte.
Après,
Si c'est les après, enfants.
Vous avez téléchargé l'application Tartampion, je sais pas quoi.
Oui, oui, oui.
L'enfant, il sait pas ce que c'est.
C'est vrai. Donc, Ils en ont parlé à la télé dernièrement.
Même Mourad, j'ai envie de te dire, mais même, je sais pas si t'as des gamins un peu de l'âge de 12, 16 ans et tout, maintenant, ils ont tout sur Pronote. Hein, ils sont obligés d'avoir un portable.
Oui, oui, c'est ce qu'il s'est dit.
Les deux joueurs, ils sont sur Pronote. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote qui m'est
arrivée. Vite, Mourad, on arrive à la fin.
Oui, oui, voilà.
Alors.
Ça c'est arrivé au boulot. C'est que je me rappelle, donc il y avait un collègue qui nous a rejoint, un jeune qui est arrivé donc dans la boîte.
Ouais.
Et le jeune en question, donc on lui a expliqué des choses, chacun lui expliquait des petits points, voilà, il prenait note, etc. sur son calepin.
Oui.
Et il y a un responsable qui arrive, qui dit ça va, tu commences à prendre tes marques, etc. Lui, ça va, il lui dit mais j'ai remarqué quelque chose qui me plaît pas. Quand je t'ai vu écrire sur un calepin, et moi je suis pas vraiment amateur de ça, je suis plus numérique. Tu peux pas faire ça sur. Et il l'a fait dans un open space. Il l'a fait dans un open space que tout le monde entendait. C'est qu'il l'a humilié indirectement.
Ah ouais.
Je vous cache pas.
Je vous cache pas.
Moi je suis intervenu. Je lui ai dit mais. Qu'est-ce que ça change qu'il écrit sur un calepin ou bien qu'il fasse sur son ordinateur? Qu'est-ce que ça change? S'il le fait sur l'ordinateur, c'est que voilà, il peut partager rapidement. Je lui dis, mais tu parles du numérique, il n'y a pas de souci. Il écrit sur son calepin, il prend une photo, tac, partage, WhatsApp, mail, ça ne change pas grand-chose. Mais lui, s'il aime faire
c'est
ça,
compliqué.
Il trouve que c'est le moyen le plus adapté pour lui de l'écrire, il faut respecter ça.
Ouais, c'est vrai.
Et si tu voulais lui faire la remarque, tu l'emmènes dans un bureau, tu dis tiens, voilà, j'ai vu ceci, cela, et on lui dit est-ce que tu connais? Si jamais il ne connaît pas, donc il va montrer ses lacunes et ses besoins, et tu pourras l'aider.
Là, tu as une bonne réaction, Mourad, je suis obligée de vous laisser. Mourad, bravo, vraiment. C'est vrai qu'il ne faut pas les humilier, les gamins, surtout aujourd'hui, c'est. Voilà, c'est puissance 1000, quoi. C'est les enfants n'aiment pas la frustration, donc il faut vraiment y aller mollo, quoi. Voilà, en tout cas, oui, j'aime bien ta réaction. Oui, bravo. Malika, merci. Et puis bravo aussi, Malika, hein, parce qu'elle a élevé toute seule, c'est pas évident. Et ça, bravo pour ta réussite. Merci aussi à Karima, merci à tout le monde. Hein. On a eu Pascal, Sophie, Mourad. Je vous embrasse, merci beaucoup, vraiment. Et revenez demain si vous voulez poursuivre ce sujet qui, ma foi, est très important. Mais oui, très très important. Merci Solal, merci à toi, merci à vous chers amis. On va vous laisser avec Rai Anthologie, la suite des programmes de Beurre FM. Voilà, demain matin, l'ouverture de l'antenne avec Kim et la matinale 7h-10h, pardon, et moi 13h-14h pour vos petites annonces. Excellente soirée, très belle nuit, faites de beaux rêves, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la rediff.
13h, 14h et petites annonces présentées par Vanessa sur Beurre FM.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Beurre FM. Il est 13h, c'est l'heure de vos petites annonces. 13h, 14h, les petites annonces sur Beurre FM au 01 53 48 3000. Tariq vous reçoit au standard et réalise également cette émission comme tous les jours. J'espère que vous allez bien. En tout cas, si c'est pas le cas, je vous souhaite un prompt rétablissement si vous êtes souffrant en ce moment. Voilà. On y va, chers amis. Au 01 53 48 3000. Voilà. Je sais plus, moi. Alors, on y va tout de suite et on accueille Sophia. Sophia de Paris, bonjour.
Bonjour Vanessa.
Comment vas-tu? Et Selmec, toi aussi. Très bien, je te remercie.
Moi, je fais une annonce pour mon mari. Il fait de la peinture, il fait du beau travail.
Alors.
Voilà. C'est pour la peinture, rafraîchir. Maintenant, c'est le printemps.
Oui.
Pour rafraîchir vos appartements avec un prix raisonnable. Hein.
D'accord. D'accord.
Voilà. Alors, je vous donne mon numéro.
Oui.
06 64.
Oui.
72.
Oui.
52.
Mmh.
45.
Parfait.
Je
l'ai, 06 64 72 52 45.
Hein? C'est bien, merci beaucoup.
Je t'en prie. Alors donc, c'est, il fait que de la peinture, hein, on est d'accord.
Que de la peinture, hein, que de la peinture. Il fait pas de bricolage, que de la peinture.
Voilà.
Merci.
Très bien.
Beaucoup.
Bonne journée, merci. Sophia. Au revoir. Merci. Donc, Sophia appelle de la part de son mari qui vous propose ses services pour de la peinture. Hein, si vous voulez rafraîchir vos intérieurs, eh bien, il faut l'appeler et il vous fera des prix raisonnables, dit-elle. Donc, sur toute l'Île-de-France. Son numéro de téléphone 06 64 72 52 45. 06 64 72 52 45. Alors, nous avons Fatima du 95. Bonjour Fatima.
Oui, bonjour Vanessa.
Bonjour, va, bienvenue. Ça va et toi? Tu vas bien Fatima?
Ouais, ça va un petit peu mieux, une bonne bronchite.
Ah, oulala, vraiment, attention. Hein. Ah oui, ça c'est le, ouais, c'est le temps. Ouais, hein.
C'est le temps. Ouais.
Alors.
J'ai enfin trouvé preneur pour ma machine à laver, il y a plus de deux semaines. Je l'ai enfin donné.
Eh ben tant mieux, je suis bien contente.
Et ben j'espère que ces gens-là, que c'est vraiment quelqu'un qui était dans le besoin.
Dans le besoin, oui, parce que c'était un don. Ben écoute, bravo.
Ouais. Alors moi, je suis à la recherche d'un plombier.
Alors, plombier.
Un plombier, voilà, il y a mon fils, il a une fuite. Enfin, la fuite, elle est chez le voisin du bar. Il faut qu'un professionnel qui vienne voir